Bienvenue à un autre épisode d'Accès MRC. Cette semaine, je reçois Cindy Mignot. Bonjour Cindy, ça va bien?
Bonjour Vanessa, oui ça va bien, toi?
Ça va très bien, merci. Toi Cindy, tu es directrice de la CDC. Donc peut-être peux-tu nous détailler un peu ce que c'est la CDC pour commencer?
Écoute, je vais faire ça bref, là, parce qu'on pourrait en parler
très longtemps.
Ça peut être abstrait pour certaines personnes, là. En fait, CDC, c'est pour Corporation de développement communautaire. Donc, à la base, on est un organisme à but non lucratif, un OBNL.
Oui.
On est situé à Dolbeau-Mistassini, mais on couvre tout le territoire de MRC, incluant Saint-Louis-de-Milo. Notre mission, c'est d'assurer la participation active du milieu communautaire et de la population au développement socio-économique du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça se détaille en deux volets. En fait, notre premier volet, c'est qu'on est un regroupement d'organismes communautaires. Donc, tous les organismes qui se situent sur le territoire peuvent faire une demande pour être membre de la CDC. Puis, nous, on offre divers services. On a un deuxième volet qui touche davantage la population. Donc, on va s'impliquer sur divers projets, notamment, par exemple, en lutte contre la pauvreté, pour favoriser l'amélioration des conditions de vie de la population. Fait que c'est très large, mais en gros, c'est ça qu'on fait.
Vous avez un bon mandat, bien rempli, beaucoup de travail, parce que vous, dans le fond, si je comprends bien, vous ralliez plusieurs organismes communautaires là, qui sont ici pour les aider pour toutes sortes de raisons et de façons.
Oui.
Et là, maintenant qu'on a expliqué un peu ça, on va rentrer dans le vif du sujet, pourquoi tu es là aujourd'hui. C'est que vous, ça fait longtemps que vous travaillez avec d'autres CDC sur une étude d'impact.
Oui.
À propos des organismes communautaires, et c'est ce que tu es venu nous présenter aujourd'hui.
Oui, en fait, c'est un projet qu'on travaille depuis plusieurs années déjà. Puis là, c'est tout chaud. Les résultats viennent de sortir. Donc, on est très contente de pouvoir en partager les résultats. Donc, nous, on voulait vraiment aller documenter ça, aller voir c'est quoi l'impact des organismes, c'est qui. Parce que nous, on les connaît, on est habitué de travailler avec eux autres. Mais quand on arrive pour en parler, on est-tu capable de mettre des chiffres là-dessus, de voir vraiment concrètement c'est quoi l'impact? Donc, c'était un peu ça l'objectif derrière le projet.
Mm-hmm.
On s'est rallié avec les CDC de la région, comme tu l'as dit. On a la CDC Lac-Saint-Jean-Est qui est à Alma, la CDC du Domaine du Roi qui est à Robertval, la CDC des Deux-Rives à Jonquière et du Roc à Chicoutimi. Et on est allé chercher aussi le regroupement des organismes de la baie et du Bas-Saguenay pour être sûr d'avoir vraiment une représentativité de toute la région. Et en 2018-19, on a commencé officiellement le projet où on a établi des partenariats. Dans le fond, on a eu un financement avec le Fonds d'aide au rayonnement des régions, là, qui est le FAR, qui est un financement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et on est allé chercher aussi un partenariat avec le CSMO-SAC, qui est notre comité sectoriel de main-d'œuvre québécois pour l'action communautaire, qui eux autres ont vraiment une expertise en recherche. Donc, avant qu'on commence, je veux juste nommer que, premièrement, c'est les travaux qui ont été faits, c'est une étude régionale.
OK.
Donc, si vous vous déplacez sur notre site Internet, vous allez pouvoir consulter le document complet qui est d'une trentaine de pages, qui, ça, c'est les données pour toute la région. Moi, ce que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est les données qui sont plus locales, donc qui touchent le territoire de Maria-Chapdelaine. On n'a pas de rapport complet encore. On travaille encore dessus. Donc aujourd'hui, je vous présente une partie des résultats, mais tiens, on en a vraiment beaucoup. Donc, je vous invite quand même à regarder dans les prochaines semaines, prochains mois, sur le site Internet, il va sortir des fiches sur différentes thématiques pour les données qui sont plus locales. Et je voulais nommer aussi que c'est 23 répondants qui ont participé au niveau local, au niveau de Maria-Chapdelaine.
Oui.
Dans le fond, au niveau régional, c'est 206 organismes qui ont été visés. Et on a eu 146 répondants, donc on est très contents de la réponse. Mais ici, à Maria-Chapdelaine, c'est 23 répondants. Donc, je vais vous décrire un peu tantôt c'est qui ces organismes-là.
Parfait.
Mais c'est pour dire que c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Tout ce qui est de données, de quantité, ben c'est un minimum parce qu'on en a plus encore que ça des organismes communautaires.
Okay.
Donc, c'est encore plus majeur que ce que je vous présente aujourd'hui, l'impact des organismes.
Donc, si jamais vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller sur le site web parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en parler vraiment longtemps.
Oui.
Mais c'est bien que tu nous as sorti ce qui nous intéresse, ce qui te semblait le plus pertinent aussi pour notre secteur. Mais on n'hésite pas à aller voir votre site là, si jamais on veut en savoir plus.
Parfait. Donc, tu es prête?
Je suis prête. J'ai hâte.
Écoute, je commencerai par... expliquer un peu c'est quoi un organisme communautaire.
Oui.
Parce que ça va teinter quand même votre compréhension des prochains sujets. En fait, qu'est-ce que c'est un organisme, mais aussi qu'est-ce que ce n'est pas? Parce que souvent, on les confond avec d'autres types d'organisations. En fait, qu'est-ce qui distingue un organisme communautaire d'un club social, d'une entreprise, par exemple? C'est diverses choses. Première affaire, c'est un OBNL, donc c'est un organisme à but non lucratif, qui a été créé à l'initiative des jeunes de la communauté. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des hommes, des femmes qui vivaient des problématiques similaires ou en tout cas des enjeux similaires qui se sont mis ensemble puis ils ont mis sur pied un organisme communautaire. Donc, c'est pas une création gouvernementale, c'est vraiment issu des gens de la communauté pour répondre à leurs propres besoins. Là où ils se caractérisent aussi, c'est par leur vie associative et démocratique. C'est-à-dire que c'est des organisations qui ont des membres, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais ils reposent sur des membres, qui reposent aussi sur un conseil d'administration, sur des comités de travail. Donc, c'est vraiment l'objectif d'être connecté avec les gens de la communauté pour répondre à leurs besoins. Parce que chaque organisme a sa propre mission, puis sa mission, c'est de répondre aux besoins du milieu. Donc, on veut pas être orienté par le gouvernement, rien. Tu sais, les organismes, ils vont toujours valider avec leurs membres c'est quoi les besoins, valider avec leur CA, puis ils vont adapter en tout temps leurs activités, leurs actions pour répondre en fonction des besoins du moment, parce que ça évolue. On s'entend que les besoins en lutte à la pauvreté en 1980 puis aujourd'hui ont évolué. Donc, les organismes évoluent aussi dans leurs actions. Ce qui est intéressant de nommer aussi de qu'est-ce qui les distingue, par exemple, si vous allez chercher un service dans un organisme communautaire versus au CIUS, par exemple, c'est que les organismes ne font pas qu'offrir des services à la population. Ils en offrent, évidemment, mais ils vont aussi déployer des actions de transformation sociale. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, un organisme qui lutte contre la pauvreté, il va offrir des services à la population directe, il va donner du dépannage alimentaire, peut-être il va offrir de l'accompagnement, il va offrir diverses interventions pour la personne, mais parallèlement à ça, il va aussi agir pour changer les choses ou agir sur les causes de la pauvreté.
OK. On va aller à la source, oui.
Exact. C'est parce qu'on veut travailler avec les personnes, évidemment, et vivre cette pauvreté-là. Mais au-delà de ça, si on veut que les gens arrêtent d'être dans une situation de pauvreté, vu que c'est une problématique sociale, il faut aussi avoir des actions sur les structures, sur tout ce qui cause la pauvreté. Oui. Donc, les organismes vont vraiment avoir des actions à deux niveaux. Puis c'est ce qui va les différencier, entre autres, d'un club social. Tu sais, on est vraiment là pour répondre à des besoins de la communauté.
Oui. Puis c'est quand même réglementé aussi, là. C'est pas... Des fois, on se part quelque chose, puis on est un organisme, mais...
Non, c'est non, ça. C'est ça. Ben, en fait, tu sais, on sont enregistrés au gouvernement à titre d'organisme non lucratif. Et on va le voir tantôt un peu avec la partie du financement, mais ils sont financés aussi pour quelque chose. Puis les critères que je viens de vous parler là, si vous allez sur notre site, vous allez pouvoir les voir de façon plus détaillée, mais c'est le gouvernement qui reconnaît les organismes en fonction de ces critères-là. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui fait qui ont leur financement. S'ils ne répondaient pas à ces critères-là, ils ne pourraient pas obtenir leur financement et avoir l'accréditation. Ouais.
C'est bon.
Exact.
Donc, on se lance?
On se lance. Donc, je vous disais tantôt que c'est 23 organismes qui ont répondu. Oui. C'est qui ces organismes-là? En fait, ils représentent vraiment divers champs d'activités. C'est des organismes qui travaillent... pour enrayer la violence, des organismes en transport, c'est des organismes qui agissent en petite enfance, en lutte contre la pauvreté. Donc, on a 23 organismes et on a 23 secteurs d'activité couverts. Donc, on voit qu'ils sont vraiment complémentaires les uns des autres.
Oui.
Il y en a qui vont toucher, qui vont vraiment se spécialiser dans un domaine particulier. Mm-hmm. Puis, il y en a qui vont toucher plus qu'un secteur d'activité. Ils vont aussi s'adresser à des populations différentes. Je vais juste tourner ma diapo. Ça, c'est un diagramme qui vous présente les organismes qui ont répondu. Ils s'adressent à quelle catégorie de la population? Okay. Il y en a d'autres que celle-là, mais celle-là, c'est les plus... celles-là qui sont davantage représentées. Dans le fond, il y a 57 % des répondants qui s'adressent à la population générale. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller chercher des services auprès de cette organisation-là. Mm-hmm. Il y en a 39 % des répondants qui, eux autres, ciblent vraiment les personnes à faible revenu.
Okay.
On en a 30 % les aînés. On en a 30 % aussi au niveau des femmes. On en a 35 % qui touchent spécifiquement donc, les familles, soit monoparentales et recomposées, ou les familles de façon plus générale, et 26 % les adolescents.
OK.
Donc, on voit que c'est assez quand même représentatif dans les populations cibles. Au niveau du territoire desservi, dans le fond, sur les 23 organismes, on en a 19 qui couvrent toute la totalité du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, incluant Saint-Ludger-de-Milo. Puis on en a 4 qui le couvrent partiellement, donc soit une seule municipalité ou un secteur. Okay. Mais pour la grande majorité, ils couvrent l'ensemble des municipalités de la MRC. Et on en a 78 % qui ont leur siège social sur notre territoire.
OK.
Dans le fond, les autres, soit qui sont situés à Alma, à Saint-Félicien, à Robertval, mais ils couvrent aussi notre territoire.
C'est comme une branche d'un organisme plus gros qui part d'ailleurs. C'est bon.
Exact. Ou, tu sais, qui ont plusieurs points de service, mais que leur siège social principal est à l'extérieur. Ouais.
OK.
Aussi, fait intéressant, l'âge moyen des organismes qui ont répondu, c'est 30 ans quand même.
Ah, quand même? Hein?
Ouais, tu sais, le plus vieux étant de 1976,
wow.
Puis le plus récent de 2017. Puis ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment autour des années 90 là, qu'il y a eu un gros boom de naissance d'organismes communautaires. Fait que c'est pour ça la majorité là, qui...
On voit que ça perdure quand même, il y a une belle durée de vie. Là.
Ouais. Tu sais, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est quand même 30 ans de membership, de population impliquée. Donc, c'est vraiment des organisations qui sont ancrées dans leur milieu.
Oui, c'est ça, beaucoup d'adaptation en 30 ans. Oui,
ouais, vraiment.
Assez impressionnant.
Vraiment. Sinon, je vous amènerai vers la vie démocratique et le bénévolat. Dans le fond, je vous disais tout à l'heure que c'est des organismes qui... C'est pas juste une équipe de travail, c'est vraiment des organisations qui sont ancrées dans leur milieu, donc qui ont des membres. Ce qui est important de différencier, c'est les membres et les usagers, les personnes utilisatrices de services, oui. C'est pas nécessairement les mêmes personnes.
OK.
Dans le fond, les usagers, ça peut être n'importe qui. Dans le fond, moi, si je suis pas membre, je peux quand même aller chercher des services dans un organisme communautaire. Mm-hmm. Les membres, on parle des personnes qui adhèrent à l'organisme. Donc, soit qu'ils ont payé une cotisation ou, s'il n'y a pas de cotisation, ils ont fait un geste volontaire pour soutenir l'organisme, donc s'impliquer au sein de l'organisme. Donc, c'est quand même 5360 membres d'organismes communautaires. Considérant qu'on est 25 000 de population, ça fait beaucoup de personnes
vraiment
sur notre territoire qui s'impliquent dans un organisme à différents niveaux. Ça peut être qu'ils sont sur le CA, ça peut être qu'ils font partie des comités, qui s'impliquent, qui donnent du temps, donc ça a vraiment... ou que juste un soutien moral parce qu'ils trouvent que cet organisme-là est important. Sur ces 5 000 membres-là, il y en a 162 qui sont des administrateurs, administratrices, donc qui s'impliquent sur le conseil d'administration.
Sur un CA.
Exact. Donc, c'est une implication qui est plus concrète, qui demande quand même plus de temps, mais c'est les membres qui font l'élection des administrateurs.
Oui.
Sinon, au niveau des bénévoles, donc on le sait que c'est quand même une particularité des organismes communautaires aussi, toute l'implication bénévole, il y a 87 % des répondants qui reçoivent l'aide de bénévoles. Donc, okay. Il y en a qui ne la reçoivent pas. Puis ça, c'est en dehors des administrateurs. Parce qu'on s'entend que 100 % des organismes communautaires ont des bénévoles, étant donné qu'ils ont tout un CA. Mais en dehors de leur conseil d'administration, il y en a 87 % qui ont aussi des bénévoles. Pour les répondants, c'est 743 là, bénévoles au total qui sont impliqués. Et en moyenne, ça revient à peu près à 37 bénévoles par organisme. Mmh. Par contre, j'attire votre attention sur la médiane de 9. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que c'est très différent d'un organisme à l'autre en fonction de son fonctionnement. Tu sais, il y a un organisme qui peut-être a un bénévole et l'autre 250. Donc, c'est vraiment très, très diversifié, là, dépendamment des activités de l'organisme, dépendamment de sa façon de gérer ses activités. Mm-hmm. Donc,
du territoire occupé aussi.
Du territoire occupé. Puis, tu sais, il y a des causes aussi qui attirent plus de bénévoles que d'autres. Là. C'est la réalité. Oui. Donc, ça fait partie aussi du portrait.
Intéressant.
Ouais, quand même, vraiment. Sinon, je vous apporterai vers, parce qu'il y a des bénévoles dans les organismes, mais il y a aussi des employés.
Oui.
Il y a des gens qui y travaillent. C'est majoritairement des femmes, de façon très majeure. Sinon, c'est des gens qui sont... on a 236 employés au total dans ces 23 organisations-là. La majeure, c'est des postes d'intervention. Puis quand je parle de postes d'intervention, là, c'est large. C'est-à-dire, c'est pas juste des intervenants sociaux. Là. C'est aussi c'est intervention auprès des gens.
Sur le terrain.
Exact.
Ouais, OK.
Exact. Donc, c'est 152 personnes Sinon, c'est 22 postes de direction, donc à peu près une par organisme, et 51 postes administratifs. Là, on est vraiment, c'est pas juste adjointe administrative, là, c'est des soutiens à la direction. Puis on a 11 postes qui sont des postes de soutien, donc conciergerie, cuisine, etc. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est le taux de diplomation dans les organismes.
Oui.
Pour les postes de direction et d'intervention, c'est 25 % qui ont au moins un diplôme universitaire,
oui,
et des fois plus, le deuxième cycle et plus. On a 58 % qui ont au moins un diplôme collégial et 17 % qui ont moins, donc que ce soit un DEP ou qui ont leur diplôme secondaire 5.
Oui.
Puis moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est les domaines de formation de ces gens-là, parce que je pense que ce qui caractérise beaucoup le milieu communautaire, c'est la diversité des profils de personnes. Puis on le voit beaucoup dans les processus d'embauche des organismes communautaires. Ils vont regarder ta formation, mais ils vont surtout regarder ton profil, tes forces comme personne. Puis on le voit dans les champs de formation de ces employés-là. On s'est vraiment diversifié. Les conditions de travail, ce que l'étude a fait ressortir, c'est des points positifs et aussi des points négatifs. Au niveau des points positifs, ce que les gens ont nommé, c'est qu'est-ce qu'ils appréciaient de travailler dans le milieu communautaire, c'est toute la gestion participative, c'est-à-dire qu'on n'est pas tellement dans une gestion ressources humaines hiérarchique, mais vraiment plus, on a envie que tous les employés participent aux décisions dans l'organisation. Toute la flexibilité aussi au niveau des horaires, au niveau de la conciliation travail-vie personnelle. Donc ça, c'est ce qui est ressorti de
la reconnaissance aussi.
La reconnaissance, puis l'impression de faire une différence dans ton,
oui,
organisation, dans ton travail, mais dans ton organisation aussi, de contribuer aux décisions.
Mm-hmm.
Puis tu sais, ça fait partie aussi des choses qui, dans les dernières années, ont vraiment été améliorées, les conditions de travail dans le milieu communautaire.
Oui.
Tu sais, maintenant, c'est plus de 70 % qui ont des mesures de conciliation travail-famille instaurées, donc,
wow,
concrètes. Plus de 34 % offrent un REER avec contribution employeur. C'est plus de 21 % qui offrent une assurance collective avec contribution employeur. Puis 39 % qui offrent des conditions de travail supérieures au nombre de travail, donc soit en congé, en vacances, etc.
Ça, c'est bon à mentionner parce que des fois, on a un petit préjugé, hein? On entend ça, « Ah, tu sais, tu travailles dans le communautaire, les conditions », mais ça a tellement changé, ça a tellement évolué. Puis
oui,
je pense que la définition de bonnes conditions de travail a changé aussi dans notre société et on va plus nécessairement chercher les mêmes choses.
Ben oui, la partie qui est plus négative, c'est les salaires.
Mm-hmm.
Clairement, les salaires sont moins élevés. Dans le fond, la moyenne pour les intervenants, c'est 20 $ de l'heure, ce qui est ressorti dans nos données. Si on compare aux autres réseaux, là, quand on compare au CIUS ou au réseau de la santé,
oui,
un technicien en travail social va gagner entre 20 et 33. T'sais, il rentre à 20. T'sais, nous, c'est la moyenne qui est à 20. Donc,
ouais,
même les plus anciens. Si on va avec un travailleur social dans le réseau, rentre à 21 jusqu'à 45. Donc, tu sais, on voit qu'il y a encore vraiment beaucoup de disparités à ce niveau-là. Au niveau des directions, le salaire moyen est de 24 et 38. Puis, on parle de, en moyenne, 9 ans d'ancienneté. Plus de 9 ans d'ancienneté. Fait que, tu sais, 24 en moyenne pour des personnes qui sont là depuis, en moyenne, 9 ans, c'est peu, on va se le dire.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, je nous ramène peut-être à ce qu'on était en train de dire. Ce que j'ai senti dans l'étude, puis ce que je sens aussi dans mes discussions avec les gens que je côtoie, c'est que les gens qui viennent travailler dans le communautaire sont conscients que les salaires sont plus bas,
ouais,
mais vont venir chercher tout le reste qui est à côté.
C'est ça.
Parce que la flexibilité d'horaire pour concilier travail-famille, ça a son pesant d'or quand même,
ouais,
en termes de conditions.
Fait tout à fait.
Puis
une belle humanité aussi, une compréhension de « Ah ben ton enfant est malade un matin, c'est correct, là, tu sais,
ouais,
on est moins dans le… » Ouais, ouais, je comprends, puis c'est le fun aussi de voir que ces valeurs-là se transforment aussi dans notre société.
Ouais, oui, puis c'est, je pense que c'est ce qui est intéressant pour les personnes, c'est quand tes propres valeurs correspondent avec les valeurs de l'organisation,
ouais,
pour laquelle tu travailles. Ce qui est important de nommer, c'est que la pénurie de main-d'œuvre ressort quand même dans,
okay,
dans l'étude. Donc, on en parle beaucoup, je pense, dans tous les secteurs d'activité.
Oui.
Le milieu communautaire en est pas épargné. Je t'amènerai au financement des organismes. En fait, les organismes communautaires sont financés de différentes façons. Le diagramme qui est là, le cercle qui est là nous démontre que la très grande majorité des organisations sont financées avec un financement provincial. Sinon, c'est soit du financement fédéral, municipal, oui. des dons de la collectivité, des activités d'autofinancement, là, mm-hmm. donc des ventes de billets, tout ça, et du financement privé aussi pour une certaine partie. Mais la majeure, c'est vraiment des subventions du provincial. Ce qui est important de soulever aussi au niveau du financement, c'est que 33% du financement est reçu à la mission. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est, tu sais, tantôt, je vous parlais que chaque organisme a sa mission, déploie ses actions en fonction de répondre à sa mission. Donc, il y a une part de financement qui, elle, est récurrente. Donc, d'année en année, tu le sais que tu vas avoir ce financement-là, tu peux prévoir d'avance, puis c'est pour répondre aux besoins de ta communauté. Sauf que, étant donné que le financement n'est pas assez élevé pour répondre à notre mission, les organismes vont chercher du financement à côté, qui est par projet. Ça a l'avantage de bonifier ton financement puis d'avoir plus d'argent pour déployer tes actions, mais ça a quand même vraiment beaucoup d'enjeux parce que, entre autres, tu n'as pas de récurrence avec ce financement-là, c'est des périodes données. Donc, par exemple, tu vas l'avoir pour un an. Fait que tu pourras pas déployer des choses à long terme, tu pourras pas réfléchir d'avance qu'est-ce que tu vas faire, c'est vraiment, c'est du point A au point B, puis après ça, c'est terminé. Fait que pas de récurrence. Ce manque de récurrence-là aussi a des enjeux sur les ressources humaines. T'es pas capable de garder tes personnes d'une année à l'autre parce qu'il faut que tu les embauches sur des projets. Ouais. Ou ils sortent d'un projet à l'autre, d'une année à l'autre, fait que c'est beaucoup d'insécurité. Aussi, là où ça crée des enjeux, c'est que, tu sais, les organismes communautaires, leur façon de travailler, c'est d'aller chercher le pouls de la communauté puis de déployer des actions pour répondre à ça. Mais des projets comme ça, ben c'est des priorités qui ont été définies par de l'externe.
Oui.
Donc, ça veut pas dire que l'argent qui descend là, avec son cadre, va correspondre avec les besoins de ta population. Mmh. Fait que là, tu tricotes puis t'essayes de t'organiser pour que ça réponde parce que t'as envie de répondre aux besoins de ta collectivité. Mais le cadre du financement que tu reçois, lui, il est très cadré puis il correspond pas nécessairement. Fait que ça crée quand même vraiment beaucoup d'enjeux.
Ouais.
Fait que, tu sais, ce que cette statistique-là nous dit, c'est que dans tout l'ensemble du financement des organismes, il y en a juste 33% qui est à la mission, donc qui est récurrent, fiable et stable. Tout le reste, c'est de l'argent à chercher en projet.
Beaucoup d'énergie investie là-dedans aussi.
Beaucoup d'énergie, de la recherche de financement, ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est de faire ta demande de financement, d'attendre, voir si tu as la réponse avant de planifier tes choses. Et 33% des répondants aussi ferment à un moment ou l'autre de l'année à cause qu'on manque de financement.
OK. C'est
principalement l'été, surtout.
Alors, on va poursuivre avec les partenariats maintenant.
Oui, en fait, les organismes travaillent beaucoup en partenariat avec les autres, soit avec les autres organismes ou avec les partenaires du milieu.
Ouais.
En fait, là, c'est à peu près 11 partenaires communautaires que chaque organisme a. Donc, sur 23, c'est quand même beaucoup. Là. Ça veut dire qu'ils travaillent vraiment beaucoup en concertation entre eux. Puis au total, là, c'est 253 autres partenaires qui gravitent autour des organismes communautaires qui ont participé à l'étude. Puis tu sais, les partenariats, c'est au niveau municipal, la santé, services sociaux, le milieu de l'éducation, tant au niveau politique aussi, provincial, fédéral. Donc, c'est vraiment diversifié. Puis, tu sais, en termes de concertation, donc de travail ensemble, les organismes évaluent que c'est à peu près 233 heures qu'ils mettent dans l'année pour se concerter avec les autres. Donc, on voit que c'est quand même assez majeur.
Et vous avez votre part à jouer là-dedans aussi, la CDC?
Oui, effectivement, il y en a probablement mission. Une grosse partie qui font partie de leurs activités à la CDC, effectivement. Sinon, je vous amènerai vers les impacts économiques, parce que ça, c'est quelque chose qu'on parle moins. Je pense qu'on associe beaucoup les organismes communautaires aux impacts sociaux. Pour les organismes de notre territoire, donc les 23 dont on parle ici, ils ont un budget de fonctionnement total de 6 803 000 quand même. Ça donne en moyenne par organisme là, 295 000. Encore une fois, c'est disparate. Là. Donc, il y en a qui ont vraiment beaucoup moins, puis il y en a qui ont plus. Donc, ça, c'est une moyenne.
Une moyenne, oui.
En termes de masse salariale totale, c'est 4 413 $ pour une moyenne là, à peu près de 191 000 893 par organisme. Et on a fait ressortir aussi l'achat local. Donc, on voulait savoir les organismes, ils dépensent combien de sommes de leur financement dans les entreprises locales.
Ouais.
Puis, pour l'année qu'on a ciblée, c'est 927 000 quand même qui a été dépensé dans les organismes, pas dans les organismes, mais dans les entreprises locales. Ça fait à peu près une moyenne de 31 000 par organisme.
Ce qui est une bonne nouvelle, une belle statistique positive.
Bien, vraiment. Puis, tu sais, c'est là qu'on voit quand même les liens entre l'économique et le social. Puis, il y a 22 % de ces organismes-là aussi qui ont un volet d'économie sociale à travers même leurs activités.
C'est vraiment intéressant et ben ça conclut, je pense, ta présentation des impacts. Je te remercie vraiment beaucoup d'être venu nous jaser de ça. C'était super pertinent. Puis peut-être rappeler aux gens là, comment on peut... c'est quoi votre site web là, pour aller en savoir plus?
En fait, c'est ça, il y en a vraiment une page spécifique sur l'étude d'impact que les gens peuvent aller consulter. C'est le cdcmc.ca. Vous allez pouvoir retrouver l'étude complète régionale. Puis, restez à l'affût, là, il y a des outils qui vont démontrer tout l'impact au niveau local dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis, ne pas hésiter à nous contacter aussi si les gens ont des questions, veulent en prendre davantage.
Oui.
On est vraiment... C'est l'objectif de faire vivre ces données-là puis de les faire connaître.
Super. Cindy Mignot, merci beaucoup. Tu es la bienvenue quand tu veux pour nous parler de ça. C'est super intéressant. Et ben merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Accès. Et merci.
Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas.
Hein?
Bien de même en plus.
Ben oui, non, je...
Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face. Tu sais que je peux pas te faire confiance.
T'essaies toujours de me provoquer.
Mon amour, je...
Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau et tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi.
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là.
Écoute-moi, mec, c'est fini, ça.
Électron libre, c'est quoi? C'est un trio de chroniqueurs, Francis Côté, Mélanie Saint-Germain et moi-même, Pierre Turcotte, qui vous informent et qui vous divertissent sur des sujets passionnants, toujours hétéroclites et parfois même étranges. Une source divertissante d'informations inutiles, de convivialité et de plaisir. Ne manquez pas, Électron libre!